Cette semaine, dans le balado, on est prisonnier sous les tirs de feux ennemis, on reçoit de menaçants textos et on se fait justice. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff!
Salut, salut!
Alors, une semaine au film très varié. Oui. On a bien hâte de vous en parler parce qu'il y en a un que nous, on attendait depuis un certain temps. On n'était même plus certain si ça sortait ici. Puis, comme à la dernière minute, tout s'est ficelé.
Oui, exactement. Ça s'est concrétisé.
Alors, sinon, ben écoute, je pense que c'est une semaine tout en nouvelles de Cannes parce qu'on a enfin eu le dévoilement des films qui seront en compétition.
Oui, il y en a une trollée. J'ai même pas remarqué combien, mais... plus de 10,
me semble. Ah ouais, je pense une quinzaine, ouais, peut-être.
Plus toutes les quinzaine des jeunes réalisateurs et autres. Jury présidé par Juliette Binoche cette année. On retrouve entre autres Julia Ducournau, qui avait gagné la Palme d'Or en 2021 avec Titane, qui revient avec Alpha. Ari Aster avec Eddington, ça met dont en vedette, ce film-là. Ça, ça avait été annoncé.
Oui, il y avait pas mal d'acteurs.
C'est-tu un film d'horreur aussi?
Non, on est comme dans un West. C'est avec Joaquin Phoenix, entre autres.
OK.
Je pense Emma Stone. Puis moi, c'est comme une comédie... Ben, pas une comédie, mais en tout cas, un western contemporain bizarre, là.
OK.
On pas trop... C'est un film néo-noir psychologique.
Ah, OK. Intéressant.
Puis Pedro Pascal, entre autres.
Ben, évidemment.
J'ai tout ça partout sur la main. Ben oui, écoute, monsieur... Joaquin Phoenix, Austin Butler, puis ouais, Emma Stone.
Ah, OK. Cool. Joachim Trier, le Norvégien?
Ben oui, fait que tu vas avoir hâte de voir son nouveau film.
Sentimental Value, qui remet en scène Renate Rinsevee, donc le duo choc de The Worst Person in the World, Julie en 12 chapitres. Wes Anderson, The Finishing Scheme, qui est en compétition, pas juste en présentation là-bas, et qui va prendre l'affiche le 30 mai, à moins qu'on en parle déjà, la bande-annonce... a pris d'assaut les écrans. Non, je ne sais pas si a pris d'assaut, mais la bande-annonce est sortie aujourd'hui.
Dévoilée,
Encore très cryptique comme son genre de film. On le décrit comme une comédie noire d'espionnage. Ça a l'air d'être plus de l'espionnage industriel.
Ouais, effectivement.
Avec Benicio del Toro en rôle principal. Il y a quand même Michael Cera qu'on ne voit pas si souvent depuis quelques années. Il se fait plus sélectif.
Un accent britannique, on dirait. Il y a comme un drôle d'accent dans le film. Mais écoute, ça a l'air aussi éclaté. Je trouve visuellement, rappelle beaucoup Asteroid City. On est dans ces palettes-là de couleurs jaunes, désert, le sable très clair.
Oui.
J'ai bien hâte de voir, mais où on retrouve quoi? Scarlett Johansson, Tom Hanks.
Ouais, tout le monde. Jeffrey Wright, plein de faces. Qui j'ai noté? Dominique Moll aussi, dossier 137, après le superbe La nuit du 12. Revient avec Léa Drucker qui va comme... enquêter sur un collègue, je pense, dans une enquête interne, si on veut. Les frères Dardenne,
les
célèbres,
habitués,
qui vont tenter de remporter une troisième Palme d'Or avec Jeune mère. Richard Linklater, Nouvelle vague, ce qui semble être un hommage à peut-être À bout de souffle de Jean-Luc Godard.
Ben oui, c'est sur la Nouvelle vague française. Puis c'est un film français en plus, donc pas américain.
Comédien français et tout.
Fait que j'ai bien hâte de voir. Moi, étant grand fan de Linklater, je pense que c'est lui qui m'intrigue le plus.
Penses-tu qu'il va changer son nom générique pour Richard Lien plus tard?
On sait pas, on verra.
En avais-tu noté d'autres sur ta liste? C'était pas mal les mêmes...
Ouais, c'est pas mal les principaux, je dirais.
C'est quoi dans les projections? Ah, il y a Mission Impossible qui va être présentée.
La grande première. Puis je pense que c'est le seul d'importance que j'ai vu. Il y a peut-être un autre film français, là, mais en tout cas, à savoir international, l'instant, c'est le seul.
Qui va être juste une ouverture pour faire venir des vedettes puis tout, et hors compétition.
On est comme à la mode, là, depuis quelques années, on remet une Palme d'Or là, pour rendre ça encore plus glamour, là, évidemment. Et cette année, c'est Robert De Niro qui aura une Palme d'Or d'honneur.
Pour son double rôle dans Alto Knights.
Oui, tout à fait. On souligne sa carrière de mafioso. Sinon, dans les rumeurs, mais qui... Moi, je pense que jamais de fumer sans feu. Puis, ouais. Je pense que ça serait super intéressant. On sait que Denis Villeneuve aime s'entourer de très bons acteurs pour sa saga de Dune. Alors, pour le prochain volet, on mentionne que Robert Pattinson serait approché pour incarner le méchant Cital, qui est l'ennemi de Paul Atreides, donc l'ennemi de Timothée Chalamet. Je pense que ça sera un choix intéressant.
Oui, puis il me semble qu'il n'a pas joué vraiment de méchant comme tel dans un film à date.
Oui, effectivement.
C'est toujours intéressant.
Donc, à suivre, on sait que normalement, Denis Villeneuve là, veut commencer le tournage au courant de l'année. Là, okay. Fait que je pense que le scénario avance vraiment.
Ouais, raison de croire encore plus, comme tu dis, qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand on entend des rumeurs comme ça, c'est bruité.
Oui, tout à fait. Puis sinon, on a enfin confirmé une nouvelle catégorie aux Oscars. On sait qu'il y avait beaucoup de lobbying pour ça, mais pour une catégorie pour les cascades.
Ah, yes!
Ouais, puis ça va être pour 2027, donc ça va concorder avec le centième anniversaire.
Ah, fait que c'est même pas pour cette année.
C'est pas pour 2026, ouais. Fait qu'on garde ça en grand pour les 100 ans des Oscars, là, ce qui est bien correct. Là. Ça va faire comme un petit happening entourant ça, mais je pense vraiment que c'était dû depuis très longtemps d'avoir cette catégorie.
Oui, mais c'est... Je sais pas. Je trouve ça drôle d'attendre un an de plus, tu sais, de l'annoncer maintenant. T'sais. Arrêtez de nous en parler, on va le faire, mais pas cette année.
Ouais, c'est ça.
Visiblement pas trop tard, mais en tout cas. Autre bande-annonce qui a pris. Qui a fait sensation, je pense que c'est samedi dernier que la bande-annonce est sortie. L'espèce d'aventure de science-fiction Tron Ares, donc Ares, le troisième volet de cette étonnante franchise, qu'on pense toujours que c'est fini, même s'ils disent qu'ils en font d'autres.
Ben, c'est vraiment des films cultes, tu sais, qu'il n'y a jamais eu un hyper succès commercial.
Effectivement, je me demande. Je me demande même, je suis content qu'ils fassent, c'est juste que ça surprend un peu du côté de Disney de faire ces grosses productions-là, si, comme telles, ils n'ont pas l'air tant rentables, du moins pas au cinéma. Et peut-être.
Produits dérivés, on sait qu'un nouveau manège à Disney sur Tron, qui a ouvert il y a l'an dernier ou 2 ans, fait que peut-être qu'on veut mousser un peu la présence dans les parcs.
Puis ça a l'air quand même capoté.
Ben oui.
Et pas le manège, le film, je parle.
Parce que là, ça se passe dans le monde des humains.
Exactement, on sort du fameux jeu où on lance des disques, là, mais là, ça a l'air d'être comme un peu Terminator, là, je sais pas, guerre des robots-machines. Il y a même des plans très Godzilla, là, quand l'espèce de prisme, pas prisme, mais genre d'espèce de fer à cheval, là, carré qui sort d'entre les buildings, puis là, la caméra recule comme Godzilla qui tourne le coin.
À l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que le film peut être vraiment intéressant. Il va peut-être rejoindre un plus grand public que Tron Legacy en 2010, je pense, ou 2012,
À peu près,
dans ce coin-là. Mais visuellement, ça a l'air super intéressant. Je trouve ça le fun qu'on renouvelle un peu le concept du film, là, qu'on ne se retrouve pas encore.
Puis on n'est plus dans le bleu, on est dans le orange, rouge-orange. Ouais, ouais.
On retrouve Jeff Bridges, donc revient dans son rôle de Kevin Flynn. On ne l'a pas vu dans la bande-annonce, mais il est au générique, donc on va probablement garder ça pour une deuxième bande-annonce.
C'est comme le seul personnage récurrent.
Fait, il y avait Bruce Boxleitner qui était revenu dans Tron Legacy, mais parce que dans le fond, c'était la rivalité ou l'amitié entre deux programmeurs de jeux vidéo, là, qui joue le rôle de Alan, en fait, qui joue le rôle de Tron dans le film original. Puis, a été intéressé, parce que ça fait quand même longtemps qu'on travaille sur une suite. Puis ça a changé de main en cours de route, puis à un moment donné, c'est juste tanné. Puis je pense qu'il a peut-être pris une semi-retraite, là, fait qu'il a dit finalement, oubliez-moi. Puis à moins qu'il y ait un petit caméo surprise, normalement, il ne sera pas là. D'ailleurs, on a une nouvelle équipe aussi créative derrière le film. Ce n'est pas Joseph Kaczynski qui revient, mais c'est Joachim Rønning.
Ouais, avec un haut, une petite barre.
Qui est norvégien ou suédois.
Ouais, en tout cas, norvégien,
c'est ça, qui avait fait le dernier Pirates of the Caribbean, entre autres. À la musique aussi, je sais que la musique de Tron Legacy avait quand même fait jaser beaucoup.
Je pense
qu'elle
était
Daft
plus
Punk
populaire que le film lui-même, la trame sonore de Daft Punk.
Mais là, on change de registre parce que c'est Nine Inch Nails qui va faire
c'est
la bande sonore.
C'est quand même drôle parce que Trent Reznor avec Atticus Ross font plein de musique, mais là, à moins que je me trompe, Atticus, il n'est pas dans Nine Inch Nails, fait que c'est vraiment juste Trent Reznor, mais dans Nine Inch Nails, même si c'est un band, c'est Trent Reznor, là. Fait qu'il doit... Ça doit être une façon de demander, fais l'esthétique de quand tu faisais cette musique-là, électro-rock. Mais, dans le fond, c'est Reznor qui fait ça. Fait que je pense aussi qu'on essaie de créer un hype et quelque chose de...
Ouais.
d'unique.
Et que ça pourrait être une des belles surprises. Ça sort à l'automne, par contre.
Ouais, 10 octobre. Octobre je trouve que c'est une bonne période moi, pour ce genre de film.
Tout à fait.
Ouais, à découvrir. Je suis quand même... Mon intérêt, ma curiosité est piquée. Disons, parce qu'au départ, j'étais assez neutre. Là. Je crois que j'ai juste vu lui de 2010, mais j'en ai pas tant de souvenirs, à part que tout est bleu. J'ai vu passer, comme c'est souvent le cas, là, vu qu'il y a une curiosité sur le nouveau, lui qui est à venir, sur les réseaux sociaux, beaucoup sur YouTube, ça ressort plein de fun facts sur le film précédent. Puis je pense que c'était tout un aria, justement, les sauts lumineux qu'ils avaient. Puis là, tu sais, on est en 2010, fait qu'il faut quand même reculer dans toutes les technologies.
Ouais.
Fait que les combinaisons qu'ils avaient avec lumineuses, ben il y avait des batteries, puis c'était de l'éclairage d'ailes, mais c'était tellement énergivore, puis il fallait que ça fonctionne que c'était des batteries qui duraient comme 10 minutes. Okay. Fait qu'il fallait vraiment qu'ils arrêtent dès la fin des prises, qu'ils revérifient, qu'ils rechangent les batteries avant chacune des prises. Puis tout le câblage était vraiment fragile, fait qu'il pouvait pas s'asseoir. Là. Il les inclinait comme sur des planches pour qu'ils se reposent, là, mettons à 45, couché sur une planche.
Comme C-3PO dans Star Wars, c'était comme ça aussi pour Anthony Daniels. Mais c'est quand même curieux, parce qu'avec la technologie numérique, il aurait pu juste faire ça en post-prod, puis...
Ben, peut-être, mais en même temps, au final...
On crée des golems, puis...
Ben oui, moi je trouve que les effets pratiques, en général, rendent toujours mieux qu'un effet numérique. Puis ça, autant ça devait être un peu complexe, ça doit être quand même moins dispendieux que de refaire ça numériquement et tout. Là. Frame par frame, là, image par image. Là. OK. Est-ce qu'on avait-tu autre chose?
Allons-y. Non, moi, c'est tout ce que j'avais. Alors, allons-y dans les films. Puis je pense qu'on va commencer par lui qu'on avait hâte de voir. Warfare d'Alex Garland et Ray Mendoza.
Oui, histoire de guerre au Québec. Avec, Dee Farrao, Woon Attai, Will Poulter, qu'on a vu il y a quelques semaines dans Death of a Unicorn, qui est encore à l'affiche, Joseph Quinn, aussi, qu'on n'arrête pas de voir à chaque saison, je pense, Cosmo Jarvis, même chose, qui était dans qui avait une sale gueule dans Alto Knights, mais là, qui a l'air beaucoup plus beau avec sa moustache. on est en 2006 à Ramadi, en Irak, on suit un peloton de Navy SEALs, qui surveillent une position ennemie, fait qu'ils prennent d'assaut une maison, s'installent là, puis font de la reconnaissance, mais rapidement réalisent qu'ils ont été repérés et que là, tranquillement, les hostiles vont faire une attaque contre eux, fait qu'ils demandent une évacuation, vont se faire quand même prendre en embuscade et le film devient un peu en temps réel... L'évacuation de cette équipe-là qui s'est faite assaillir puis qui a quelques blessés, quelques morts dans leur peloton. C'est simplement ça. C'est pas un film où le peloton va traverser la ville puis tuer 125 personnes.
On
n'est
pas dans Black Hawk
Down. Non, c'est ça, les grands héros ou dans la Mark Wahlberg qui va tirer...
Enfin, on a
120
parlé...
personnes à genoux.
On a parlé du réalisateur Alex Garland. Donc, c'est lui qui nous avait donné Civil War, guerre civile, le printemps dernier.
Ouais.
Et justement, donc, on est dans un autre genre de cinéma. Un cinéma plus d'auteur, quand même. Une approche plus
réaliste.
Très réaliste, effectivement. Donc, si vous avez aimé Civil War, on est un peu dans ces relents-là. Il y avait quelques séquences quand même de fusillade, surtout la dernière qui était spectaculaire dans les de Washington. Fait que c'est ça. Fait que ce n'est pas Sniper, sachez-le. Mais je pense que la force du film, c'est vraiment la réalisation, parce que la prémisse, elle est très simple, mais c'est la façon qui s'est traitée, où on est plongé dans cette attente-là infernale. Et l'utilisation du son rappelle encore une fois qu'on oublie un peu comment le son peut devenir... peut nous impacter nos nouveaux sensoriels. Merci beaucoup.
Sensationnel aussi.
Et sensationnel. Puis je trouve ça le fun parce que depuis quelques années, on a des films comme ça, The Sound of Interest en était un il y a deux ans, Civil War aussi. Et là, écoute, on est bombardé au niveau sonore.
Ben, littéralement,
Oui, vraiment. Et c'est spectaculaire.
Ouais, c'est ça, quand les gars sont juste à l'intérieur. Puis tu sais, comme le film se veut réaliste, ben, on voit pas nécessairement... Les gens hostiles comme s'installer puis mettre un lance-roquette puis tout parce que eux ils sont pas au courant de ça fait qu'on est beaucoup coincé entre les murs de la maison entendre les balles siffler les balles percuter la maison la pierre puis là des fois on a la vue satellite pendant qu'ils ont leur communication vraiment beaucoup de communication de walkie-talkie comme non-stop honnêtement je pige pas tout parce que c'est des termes techniques mais tu comprends quand même tout ce qui arrive qui sont dans l'attente que ah non là fais-toi passer pour un autre pour pour qu'on puisse avoir l'aide, etc. Quand ils se font attaquer, on est surpris nous-mêmes quand ça arrive. Ouais, c'est ça. C'est pas la même... C'est très violent. C'est graphique aussi quand on voit les blessés. Mais c'est pas la même violence non plus que le débarquement de Normandie, le fameux débarquement dans...
Saving Private Ryan.
Oui, Soldat Ryan. Où là, c'est parce que c'était des centaines, là, une boucherie de gens. C'est ça, qui tombent, là, comme on dit. Ils sont un peloton, ils doivent être 8. Fait qu'il va y avoir quelques blessés, quelques morts, mais c'est pas les dominos qui tombent non-stop non plus, là.
Non, c'est vraiment une expérience. Vous allez vivre, tu sais quoi, dans un peloton comme ça, prisonnier sur le tir ennemi. Et c'est fascinant à vivre.
Le film prend pas... deux choses, justement. L'autre co-réalisateur, Ray Mendoza, est un des protagonistes de l'histoire. Fait qu'il s'est basé sur... Dans le fond, il est co-auteur et co-réalisateur. Fait que c'est basé sur son souvenir, celui de son peloton, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Fait qu'on vit vraiment ce moment-là. Le film dure 1h30, à peu près 1h35, je pense. Mais j'ai oublié où je voulais aller. Ah oui, c'est ça. Le film fait pas... L'hégémonie, c'est ça qu'on dit? En tout cas, rend pas justice à comme c'est important d'aller à la guerre, défendre la démocratie, etc. On parle pas tant du conflit qui s'était en Irak non plus, de on a-tu bien fait ou pas d'être là.
Il y a pas de message politique.
Non, c'est ça. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment le trauma de quand t'es là puis que ça chie. Là, c'est pas normal qu'ils soient tout PTSD quand ils reviennent à la maison. Même si t'as reçu aucune balle en ta direction comme telle, d'être là dans cette maison-là, que ça siffle puis que là, on lance une grenade lacrymogène, puis là, il faut que tu rentres dans un camion pour être protégé, puis t'entends des coups de feu tout le temps. Pis c'est fou aussi quand on les voit t'sais, dans leur position de combat, là, comme se protéger, puis là, faire des tirs pour être couvert, mais c'est sur le rush d'adrénaline, là, ils sont pas nerveux, mais ils l'ont fait en pratique, mais leur pratique, c'est pas se faire tirer dessus non plus, là, fait que sur le terrain, tac, 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 OK, pendant que je me recharge, tu couvres, puis tout, puis ils arrivent à pas se faire tirer dessus à ce moment-là, c'est quand même hallucinant.
Oui, tout à fait. Donc, tu l'as mentionné, Ray Mendoza, donc, qui a vécu ça réellement, un ancien militaire, et la connexion avec Alex Garland, c'était sur le film Guerre civile, justement, où il était un des conseillers militaires auprès de la production, puis c'est là qu'ils ont décidé, lui et Alex Garland, de travailler sur ce film-là quand même. Fait que tout ça s'est mis en branle assez rapidement. À noter que c'est une production aussi d'A24, fait que déjà là, ça vous donne un degré un peu du genre. C'est pas un film de grand studio nécessairement, mais je pense qu'avec une certaine certitude qu'il va se retrouver pour quelques nominations aux Oscars, là, je pense que s'il n'y a pas le son, ça va être un vol, là, parce qu'il devrait normalement être en nomination, peut-être même montage, je ne serais pas étonné, parce que faire un film comme ça en temps réel, c'est quand même un défi.
Oui, c'est ça. En nomination, de structure, là. Assurément, là, après celui
qui va gagner,
c'est dur à dire. S'il va avoir un Mission Impossible cet été, on vient de nommer Tron, peut-être, c'est un gros film à surveiller au niveau du travail sonore. Là.
Ben, peut-être. Mais... Moi, je pense que ça risque d'être entre lui et les F1.
C'est
probablement,
vrai,
là, je pense. Mais écoute, peut-être même qu'il pourrait se glisser meilleur film, là. Ce serait pas impossible, tout dépendant de l'offre de l'automne. Mais je pense que cette force-là, quand même, pour être même en nomination. Là.
C'est ça. Fait que tout ça aussi, dans mon message, ben je sais qu'en ce moment, on est un peu en conflit politique, disons, là. Pas au niveau de la guerre, mais avec les États-Unis. Puis des fois, on est moins enclin, c'est bien correct, à encourager les produits. C'est sûr que c'est un film américain, là. Vous faites ce que vous voulez, mais... C'est pas un film, c'est ça, qui souligne la grande gloire américaine, puis des gars musclés, huilés, qui sont une chance qu'on
est
là.
On n'est pas dans Top Gun.
Non, le film n'est pas patriotique du tout. Fait que, si vous avez un intérêt, mais tu sais, c'est assez troublant et traumatisant. C'est pas un film de guerre le fun, là. C'est,
non.
Voilà.
Alors, donc, on n'a pas été déçus, bien au contraire. On était très contents que le film soit une belle réussite. Parce que c'est quand même un peu toujours casse-gueule, un peu, ces films-là. Puis je pense peut-être une comparaison serait peut-être The Hurt Locker aussi. Je pense qu'on est peut-être
oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai vu ça, mais ouais, les mineurs...
un peu le côté sale de la guerre.
Qui avait gagné le score du meilleur film.
Voilà.
Un contre toute attente, parce que c'était pas un film qui avait eu un gros succès en salle non plus.
Alors, si vous aimez les thrillers psychologiques, on y a Drop de Christopher Landon qui arrive sur nos écrans.
Oui, Trollé au Québec. Québec, parce que quelqu'un nous troll, avec Megan Fahey, qui est surtout connue pour être dans White Lotus, la série à succès.
Qui a un gros, gros buzz, White Lotus. Elle était dans la deuxième saison, là, fait que c'est comme une série d'anthologie, fait que les personnages ne reviennent pas tout le temps. Mais que je suis en train d'écouter, justement. Je suis dans la deuxième saison, puis elle est très bonne, effectivement.
Brendan Sklenar, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Il doit être aussi une couple de séries télé, films, machin.
C'est pas lui qui est dans Eden's With Us?
Il est dans Eden's With Us, j'ai vu, mais je n'ai pas vu le film. Je ne sais pas quel personnage.
Oui, il jouait comme le bon gars.
Non, le bon gars. Ouais. OK. Ben, j'espère. Violette, une mère veuve, se rend dans un luxueux restaurant pour un rendez-vous galant et suite à une connexion sur des apps de rencontres. Chose qu'elle n'a pas faite depuis plusieurs années, étant veuve et que ça... Sa veuvité se soit faite suite à un certain trauma dans la maison. Mais elle est soulagée de constater que Henry, qui est sa date, donc joué par Sklenar, il est beau, il est fin, tout semble cool, c'est un charmant photographe. Sauf que la soirée va prendre un tournant très inquiétant alors qu'elle va commencer à recevoir des drops, c'est-à-dire c'est pas des SMS ou des messages Messenger ou quelque chose comme ça que tu connais la provenance, mais c'est juste basé sur la proximité. Fait qu'on peut utiliser ça pour s'envoyer des fichiers, des choses comme ça. Fait que le nom de code, elle sait pas du tout c'est qui. Puis cette personne-là, il envoie des memes, là, t'sais, des petites blagues, genre hey, « toi qui essaie d'avoir du fun, mais moi qui est creep derrière toi ». Et elle va mettre un peu sa date au courant de ça. Puis dit « ben c'est sûr, c'est quelqu'un qui est dans le restaurant, là, il faut qu'il soit à 50 pieds de toi ». Et rapidement, elle va recevoir des menaces comme « ton fils est en otage avec ta sœur qu'il garde à la maison ». Puis là, comme elle a plein de caméras de sécurité, elle voit tout ça sur son cellulaire. Fait que faut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil. Puis là, elle va y faire des choses par rapport à sa date jusqu'à éventuellement lui demander d'assassiner sa date. Fait que là, elle se retrouve un peu à être obligée de faire ça. Et à un certain point aussi, elle peut plus communiquer ça à sa date. Fait que là, tout devient un peu awkward. Puis c'est un fameux jeu de « mais qui est-ce? » Elle a croisé 3-4 personnes dans le restaurant. Les autres, la barmaid, le gars avec la date, le gars qui est weird puis qui attend. C'est-tu sa date? Etc. Fait que, à Manu, quand ça lui demande de tuer, que c'est pas sa date qui est derrière ça, là. Mais bon, une autre couple de...
Il y a
plusieurs
suspects dans les entourages.
C'est ça. Landon nous a habitués plus à des films comiques d'horreur, avec Happy Dead Day et la suite Happy Dead Day to You, quelque chose comme ça. Il avait fait Freakier aussi, qui était une genre de revisite de Freaky Friday, donc de l'échange entre les corps, mais entre un tueur et une collégienne, je pense, quelque chose comme ça. Que j'ai pas vu, je sais pas si tu l'as vu.
Oui, c'est sympathique.
Ouais, avec Vince Vaughn. Et... Ouais. C'est ça. Alors là, on est vraiment plus dans le thriller américain classique. Je trouve un peu...
Hitchcockien par bout, là.
Ouais, il y a quelque chose de Palma d'Hitchcock, parce que comme c'est des communications cellulaires, il y a beaucoup de textos, fait que l'intégration de ces écritures-là, donc ce que son assaillant lui communique, il est beaucoup intégré dans l'image, dans le visuel. Ça fait très comic book et tout. C'est quand même très réussi esthétiquement, je trouve. Et tu sais, le bon dosage de ce qu'on appelle les Dutch angles, les crook angles, un petit peu croche, mais pas trop, mais juste assez et tout. Fait que vraiment cool. Des fois, l'utilisation des fameuses caméras de sécurité qu'il y a dans le restaurant aussi, elle va comprendre qu'elle est sous observation par cette personne-là. C'est un espèce de restaurant, genre... clairement, moi, mais je veux dire.
5 étoiles, Michelin.
Puis aussi, clairement construit en studio.
Oui, oui, oui.
Mais en même temps, c'est cool au film. Fait que c'est un peu surréel. Ils sont à Chicago, ils sont genre au 30e étage d'un gratte-ciel avec la vue et tout. Fait que, tout est comme bleuté, doré, très. Surréel. Puis oui, ça doit être un truc, comme tu dis, de fusion, nouvelle vague, machin. Je pense qu'ils vont avoir une bonne facture en sortant de ce resto, s'ils en sortent. Et vas-y.
Écoute, moi, j'ai bien apprécié. Effectivement, moi, je t'avais mentionné Happy Dead Day, qui était, dans les dernières années, vraiment un des films d'horreur que j'avais beaucoup apprécié. Justement, j'aimais son...
C'est ça. Un peu, mais à l'époque où c'était encore correct d'être un peu méta.
Ouais,
là.
C'est ça. Fait que je trouve ça le fun aussi, là, qu'il change un peu de registre, justement, d'arriver avec un... On est plus dans le thriller. D'ailleurs, Landon avait été longtemps attaché au nouveau Scream. C'est lui qui devait le réaliser. Puis je pense qu'il aurait fait un bon film, honnêtement.
Quand les comédiens ont commencé à débarquer,
puis
tout lui aussi,
en fait, puis il a révélé cette semaine en tournée de presse qu'il avait reçu des menaces de mort en lien, par croyant que c'était lui qui avait renvoyé...
Barrera?
Ouais, Barrera, puis tout ça. Fait que là, c'était comme trop de pression. Fait que on est vraiment rendu là, c'est triste. Fait que, ouais, bon, tu vois, t'as mentionné Brian De Palma, effectivement, je pense que ça va être une bonne comparaison. Peut-être la dernière portion, là, que, tu sais, aujourd'hui, des fois, on va juste un peu trop loin, mais tu sais, pour le grand public, c'est correct, là, tu sais, mais... Je pense que ça aurait pu être le fun de...
Un petit peu plus terre-à-terre.
Ou un peu plus terre-à-terre dans la dernière portion, mais vous allez passer un très bon temps. Puis ouais. L'intrigue est le fun aussi. C'est dur. Dès le départ, là, on ne sait pas c'est qui. Là, il nous laisse se languir un bon moment. Puis en même temps, c'est pas le punch final non plus. Fait que, au niveau de l'écriture, c'est assez bien.
Exact. Ouais, je trouve que c'est à la fin, effectivement, ça jump le shark un peu, comme on dit. Pas sur le reveal, mais juste sur les dernières actions, les derniers, genre 10 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Là. Mais on tombe beaucoup dans... Il y a quelque chose, j'en discutais avec ma copine, puis... Parce que des fois, quand on écoute des films, après, elle me dit « T'as écouté un film aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as vu? » Blablabla. Puis comme t'es à la maison avec un nouveau bébé, ben je brûle toutes les punches parce qu'elle les verra pas. Puis je lui ai ça l'intéresse pas, ces films-là. Fait que je ventile, puis ça me fait méditer sur mon appréciation.
Ouais.
Puis tu sais, tu choisis, puis c'est quand même plus souvent ça, que tes personnages soient droitiers. On le voit. Puis là, à un certain point, il y en a qui vont recevoir des balles, des coups de poignard, des coups de bâton, n'importe quoi. Puis ils se font tous percuter sur leur épaule ou leur omoplate droite. Puis tout de suite après, ils ont une séquence où ils ont besoin de leur main forte, puis ils l'utilisent comme, tu sais, ils font « Ah, j'ai mal! » Mais là, tu sais, ils swingent la fille, prend sa main droite, la fait traverser la verrerie, puis tout le vaisselier, puis toutes les affaires. Mais pourquoi vous l'avez pas juste fait qu'il soit blessé à gauche? Je comprends le code du film que, dans la vraie vie, un peu comme on vient de parler de Warfare, tu reçois une balle, ben, tu sais, tu bouges plus, là. C'est fini. T'es pas nécessairement mort, mais t'es magané, tu sais. Mais le code du film d'action est comme « Ah, ça me fait mal, mais je continue. » Puis en plus, tu veux qu'il soit pas 16 ans et plus aux États, fait qu'il y a pas beaucoup de sang quand ils reçoivent des impacts puis des choses comme ça. Ça, je suis prêt à embarquer dans ce code-là du moment de cinéma, mais je suis comme « Faites un petit effort. » Même principe, tu sais, tu reçois un couteau dans la jambe, ben, tu vas marcher, mais tu vas boiter. On accepte ça, Mais j'ai comme, ben, fais-le au moins qu'il frappe l'autre bord ou que lui est obligé de prendre l'autre main. Fait qu'il y a un moment, c'est ça, la personne, elle se fait reprise ce bas-là, puis la scène d'après, elle s'accote sur le mur sur ce bras-là, en ouvrant son épaule, en faisant « Ah, oh, quand même! » Ben oui, mais c'est, c'est sûr, là, tu mets pas ton doigt dans ton trou de balle en disant « Ah, oh, ça fait mal! » Mais c'est un peu... Fait que c'est des petites affaires que je serais comme, moi, si j'étais consultant sur un plateau, là, il y a des petits trucs que je serais comme « Guys, un petit effort, puis... » Poignarder de l'autre bord, puis après, la suite, on peut continuer. Mais, pour cela dit, quand même, un bon moment. Je trouve que c'est un petit peu peut-être un digne héritier de Shyamalan.
Oui, 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 on est
mais dans Shyamalan, c'est un petit peu éloigné peut-être de certains succès, là. Fait que, en justement, toute cette folie-là, puis en rajoutant encore plus.
On n'est pas loin de Trap dans l'esprit aussi.
C'est
là,
ça, exactement.
Une espèce de huis clos.
Mais c'est un high concept qu'on appelle, là. Fait qu'on prend vraiment un concept, puis on pousse à l'extrême sur ce côté. En cloisonné là, oui, clos dans le restaurant et tout. Fait que, écoute, ça va pas révolutionner le cinéma, mais pour c'est un bon divertissement de cinéma. Mais comme on l'a dit, c'est un thriller, c'est pas un film d'horreur à ce niveau-là. Des fois, les bandes-annonces peuvent être trompeuses. Là.
Tout à fait. Puis j'ai un petit fun fact parce que, dans le fond, le scénario a été inspiré d'une expérience des producteurs.
Ah ouais?
Un des producteurs était...
Puis c'est pas... c'est un Blumhouse, entre
autres. Oui, mais c'est pas Jason Blum, c'est Sam Lerner. Et Cameron Fuller, donc, qui sont des coproducteurs et amis, qui étaient à un souper avec donc, la conjointe de Sam Lerner, qui est Olivia Sui. Et elle recevait justement par airdrop toutes sortes de mimes de Shrek, comme ça. Mais, il n'y avait rien de menaçant, là, mais c'est juste qu'elle recevait des trucs. Elle ne savait pas d'où ça venait, qui envoyait ça.
C'est du monde qui s'amusait.
Ben, c'est ça. Fait que ça a comme été le point de départ.
Ben, c'est drôle parce qu'au début, quand elle les reçoit, avant que ça soit plus des menaces, il voit qu'il y a une table de... comment on appelle ça, du monde qui vont graduer avant leur prom, là, leur bal de finissant, quelque chose comme ça. Puis ils se disent, ah, c'est sûr que c'est eux qui niaisent parce que technologie, puis ils ont du fun, puis tout. Là, puis là, ils sont écartés un peu quand ça devient plus sérieux maintenant.
Alors voilà pour Drop. Allons-y avec un autre thriller cette semaine, mais d'espionnage.
Ouais, d'action. D'action, ouais.
C'est ça que moi j'ai pas vu, mais que toi tu as eu la chance de voir. The Amateur de James Oz.
Ouais, ou L'Amateur au Québec, avec Rami Malek, qui est de à peu près 95% des scènes. C'est vraiment lui qui est le lead dans ce film. Mais il y a aussi Laurence Fishburne, Holt McCallany, qui était le père dans The Iron Claw, là, dans les, ah, la famille oui, oui. de lutteurs et tout. Mm-hmm. Vous serez peu surpris d'apprendre qu'il joue un des boss de la CIA, mais qui est un petit peu louche, un peu crush. Caritiana Balfe, l'Irlandaise qui était dans Belfast, qui jouait la mère, qui jouait Ma. Très bonne là-dedans aussi. John Bernthal, j'y reviendrai un peu sur son personnage. C'est un scénario de Ken Nolan qui avait entre autres écrit Black Hawk Down, hein, qu'on référait tantôt. Gary Spinelli, et c'est d'après le roman de Robert Little, roman du même nom, qui avait été adapté en 81 dans film que je n'ai pas vu avec John Savage et Christopher Plummer.
Je veux dire, le réalisateur, c'est quand même lui qui nous avait donné One Life avec Anthony Hopkins il y a 2 ans à peu près, qui est un autre registre.
Oui, tout à fait. C'est son premier film, je pense, autant action... Ouais,
plus grand budget.
Ouais, américain, hollywoodien. Ouais. Là. Mais il y a quand même pas mal de films sur sa filmographie, mais c'est peut-être plus des TV movies, des affaires comme ça. Pas que c'est un tâcheron, mais je pense pas qu'il est habituellement dans ce cinéma grand public, justement. Le personnage de Malek, donc Charles Heller, surnommé Charlie, il est un cryptographe pour la CIA. Donc, il travaille à décoder des affaires, essayer d'avoir de l'information. Il travaille au troisième sous-sol. C'est un gars de IT, de technologie. Pas du tout sur le terrain. Mais dans un voyage d'affaires, sa femme Sarah va être tuée lors d'une espèce d'attaque terroriste à Londres / prise d'otage. Puis il va enquêter rapidement là-dessus, donner un dossier à ses supérieurs puis dire est-ce qu'on peut retrouver les 4 personnes, dont celui qui l'a vraiment flingué, puis procéder, puis les rapatrier. Puis là, il comprend qu'ils vont rien faire. Parce qu'il faut qu'ils laissent aller, puis qu'ils sont sur un plus gros dossier, etc. T'sais, comme des fois quand on entend, ça sert à rien d'attraper un vendeur de drogue, tu veux déceler le cartel derrière, fait qu'eux sont un peu bassés, on va laisser ça aller, puis on travaille plus à long terme sur d'autres choses. Fait que, là, étant vraiment troublé de ça, t'sais, Malek qui joue aussi un personnage qui rappelle un peu Mr. Robot, puis ces affaires-là, le plus introspectif, écoute, on le dit pas clairement, mais tu sais, peut-être qu'il est un peu dans le spectre d'une certaine manière, là, mais c'est pas comme un super pouvoir ou quoi que ce soit, là, mais...
Une petite douance.
Ouais, c'est ça, genre. Et fait qu'à peu près son seul ami, sa seule amie, c'est sa femme, tu sais. Fait que c'est la personne à qui il dit tout puis il parle tout, mais quand il est au bureau, il fait ses petites affaires puis c'est tout, là. Il comprend qu'il mange tout seul à la cafétéria, pas tant d'amis, etc. Même s'il est très doué dans son travail. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va trouver de quoi de louche grâce à un de ses contacts internationaux et faire du chantage parce qu'il va réaliser que ses boss, dont Holt McCallany, qui n'est pas le directeur du CIA, mais genre juste de son unité et tout, il a beaucoup magouillé en faisant des affaires croches, mais tu sais, au nom des États-Unis d'Amérique. Là, fait que tuer des innocents, mais pour que politiquement, cause. Exactement, des affaires normales. Fait qu'il va faire du chantage avec ça, en disant « Bon, je vais révéler toutes ces affaires-là, mais en échange, ce que je vous demande, c'est que vous me formiez terrain puis que vous me laissiez aller venger
ma femme. » Va aller péter des gueules.
Ouais, exactement. Mais le film a un certain réalisme, je mets des guillemets là-dessus, que ou un peu comme dans Novocaine, c'est pas parce que la personne a le pouvoir de pas ressentir la douleur qui est bon pour se battre, ben c'est un peu ce qui va y arriver. On le met beaucoup d'avant de « Est-ce que tu es vraiment capable de tuer? » C'est drôle, chose qu'il a amené, il y a dans Trolley, il a 2-3 fois dans ce film-là, quelqu'un qui donne l'arme et dit « Ah ouais, shoot-moi si t'es capable. » Puis la personne dit « Ah non, je suis pas capable, c'est trop... Là, je serais pas plus capable, mais c'est juste, ça me fait rire que dans 2 films, j'ai vu cette scène-là 3 fois. » Que...
Est-ce que c'est Morpheus qui entraîne Neo? Ou...
Tout à fait. Ah! C'est ça. Laurence Fishburne joue l'ancien... l'espèce de coach terrain qui est un ancien agent de terrain. Fait que c'est lui qui le forme un peu. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, là, les autres sont pas contents de se faire blackmailer. Fait qu'ils recourent après Heller de leur bord. Fait qu'ils vont demander à Fishburne, finalement, peux-tu le retrouver puis régler son compte. Fait que là, etc. Fait que ça, c'est un peu... Lui court après des assaillants internationalement pendant que finalement la CIA lui recourt après par derrière.
Fait donc, que... un petit côté Jason Bourne.
Ouais, c'est ça, mais on enlève tout le côté qu'il est super bon puis il casse des gueules. T'sais. Il est plus witty, là, fait qu'il va plus faire des bombes puis des affaires comme ça, là, que vraiment être un sniper sur un toit puis être un assassin international. T'sais. Mais... bref, ça, c'est à peu près l'histoire. C'est un... je dirais que c'est un très bon thriller d'action comme ça. Va pas nécessairement passer à l'histoire, mais si vous êtes intéressé par ce genre de film, que c'est pas tout à fait, comme je disais, un film de papa, là, comme le Statham, là, parce qu'on est un petit peu plus dans... il y a un peu plus de finesse là-dedans, dans ce film-là. J'ai vu des premières critiques très bonnes, d'ailleurs, pour le film, pour ça. Rami Malek est super bien. Lui qu'on a vu dans... peut-être des films où il n'était pas tout à fait sur son X, mais là-dessus, jouer les personnes un peu plus renfermées, plus solitaires et tout, je pense qu'il l'a très bien parce qu'il y a une certaine empathie quand même dans son regard puis dans son jeu.
Mm-hmm.
Mais il y a quand même un archétype qui lui colle mieux à la peau. C'est ça. Je trouve quand même que Fishburne puis John Bernthal sont sous-utilisés, ils sont comme pas là, amenés, ils reviennent, puis amenés, bon, ils sont plus là, puis peut-être qu'à la fin, on les reverra faire une blague ou deux, mais c'est tout. Fait que je trouve ça un peu dommage pour ça. Puis voilà, fait que je suis pas tant d'autres choses à ajouter. Okay. Tu l'as pas vu, à voir si tu avais des fun facts sur le film.
Non, oui, j'en ai juste un, parce qu'effectivement, okay, c'est un roman qui date de plusieurs années, puis qu'on a retenté de refaire au début des années 2000. Avec Hugh Jackman dans le rôle-titre qui était attaché au projet pendant quelques années. Okay. Mais finalement, ça ne s'est jamais concrétisé.
C'est à peu près à l'époque où il faisait Opération Swordfish, qui ça était un peu vulgaire et n'importe quoi. Et très vulgaire aussi, la fameuse scène de la fellation pendant qu'il hack et tout. Là. Okay, voilà.
Allons-y.
Dans les autres sorties, on s'en va du côté de l'Europe francophone.
OK.
Il y a le... je sais pas s'il y en a que tu voulais parler en premier. On va toutes les faire.
Ah ben moi je m'en allais, au Japon, via la France.
D'accord.
Allons-y. Avec une part manquante de Guillaume Séné.
Oui, du Belge Guillaume Séné. Ouais, ça, on dit pas Sénèse.
Moi,
hein.
Je pense Séné, en tout cas. On s'excuse si on le prononce mal.
Ben, Séné ou Sénèse. On va suivre un personnage de Romain Duris qui est expatrié au Japon. Parce que après sa rupture avec son ex, il a donc perdu la garde de sa fille de 9 ans et son ex lui interdit tout lien, fait qu'il la voit plus du tout, fait qu'il s'est trouvé une job de chauffeur de taxi, puis il espère juste un peu par chance tomber dessus, ce qui arrive un beau jour, mais du coup il dit pas instantanément « Hey, c'est moi ton père biologique, te souviens-tu, t'avais 2 ans la dernière fois qu'on s'est vu, là? » Fait qu'il va essayer de garder ce lien-là en étant son chauffeur pour aller à l'école. Et en même temps, il est justement membre de réseaux de parents comme ça, de parents internationaux qui ont perdu, que leur couple a fini. Puis ce qu'on comprend, c'est que le film nous présente aussi cette espèce de lois et mœurs très uniques au Japon. Là. C'est-à-dire qu'ici...
les droits de garde, on en a, mais
ouais, c'est
là-bas.
Ça. Même ouais, c'est si ça. C'est un parent étranger et tout, là-bas, c'est comme, non, t'es pas japonais, ben ouais. C'est le parent japonais qui a 100% les droits, que ce soit le père ou la mère. Puis l'autre est comme, bonne vie, bye, mais...
Et ce que j'ai su, c'est même entre japonais eux-mêmes aussi.
Ah ouais, okay. Ouais, un des parents garde l'enfant,
puis l'autre était coupé. Ouais.
Tu peux... si on veut pas que tu la vois c'est jamais, puis il y a pas de médiation et quoi que ce soit. Fait que là, il est beaucoup avec une nouvelle amie qui, elle aussi, est dans cette situation-là. Puis comme, faut vraiment que tu gardes ton sang-froid. Tu peux pas dire... en plus, c'est au Japon, les mœurs déjà sont différentes. Tu peux pas élever le ton et dire « Voyons, ça a pas de sacré bon sang, réveillez-vous. Faut que je voie ma fille, mon fils, nanana. » Tu nuis tout à toi si tu fais ça. Faut que tu sois cool. La personne t'envoie une photo de l'enfant. Faut que tu dises « Ah, merci, super gentil, j'espère. » Tu sais, jusqu'au jour où je vais pouvoir aller... prendre une crème à glace pendant 10 minutes parce que tu vas avoir confiance en moi, mais ça peut être stoppé à tout moment. Fait que... ouais, c'est quand même très touchant, tout ce truc.
Ouais, ben moi, c'est ce que j'ai apprécié beaucoup de ce film-là. Donc, c'est un drame très intimiste, on comprend, avec cette problématique-là qui se vit là-bas. Fait que je trouve ça intéressant. D'ailleurs, le film est parti de ça, hein, parce que Guillaume Séné et Romain Duris avaient fait auparavant le film « Nos batailles ».
Ouais.
Ils étaient en tournée donc, au Japon. Et l'histoire est inspirée d'un expatrié français qui vit là-bas, qui a subi ça. Donc, ils se sont croisés à parler de cette problématique-là. Donc, ça a intéressé Senèse et Duris de faire un film là-dessus. Puis, en même temps, c'est ça, c'est tout un film en retenue, mais je crois que c'était bien écrit. Romain Duris, toujours excellent, peu importe. Surprenant parce qu'il parle même japonais, a appris japonais pour le film, pour son rôle quand même. C'est ça. Fait que si vous voulez quelque chose de quand même qui est très lent, mais qui nous montre une porte d'une culture qu'on connaît pas tant que ça, là, à part les mangas là, du Japon, là, ou les sushis, ben il y a autre chose quand même. Fait que moi j'ai bien apprécié, honnêtement. Puis je sais que ça a peut-être pas eu le succès escompté en France, mais peut-être pas. Puis j'ai pas lu les critiques, là, fait que je sais pas si c'était dû à ça ou juste parce qu'à un moment donné, il y a tellement de films qui sortent, puis ça passe un peu dans le beurre, mais... quand même, moi, je trouve un film très, très intéressant.
Oui, il avait été présenté à Cinémania à l'automne, puis il y avait eu une très bonne, un accueil très favorable du public.
Et d'ailleurs, il y aura un papier sur une part manquante, parce que j'ai eu l'occasion de jaser à Guillaume Senet et Romain Duris.
Puis tu l'as appelé Guillaume Senet lors de l'entrevue?
Bon, oui.
Okay, non, je t'ai pas corrigé en disant « c'est Senèse ».
Ah non, j'ai peut-être juste dit... Non, je me rappelle.
Juste Guillaume.
Peut-être juste Guillaume, effectivement. Guy. Mais honnêtement, j'étais très content parce que Romain Duris, c'est une des, acteurs que j'espérais rencontrer un jour, avoir la chance de parler, parce que je l'aime beaucoup. Il était très sympathique.
Ah ouais, d'ailleurs.
Fait que ça a été une belle rencontre. Oui, tout à fait. Alors, ça sera, je pense qu'il... Oui, je pense qu'il est déjà en ligne même. Donc, vous pouvez aller voir sur monciné.ca.
Est-ce que c'était-tu en personne à Unifrance ou c'est...
Ça, je l'ai fait à Cinémania.
OK, donc, mais à distance?
Par visioconférence. OK. Oui, c'est ça. Alors, fait que voilà pour une part manquante.
Et voilà, il y a aussi le drame suisse Les Courageux de Jasmine Gordon. On pourrait croire que c'est Jasmin, mais non, c'est Jasmine. Okay. C'est une femme. C'est juste qu'il n'y a pas de E à la fin. C'est la Suisse. C'est différent. Il y a des espèces de trois langues officielles là-bas. Ce film-ci se passe en français, se déroule en français. On suit une quadragénaire assez délinquante et endettée qui va... Elle veut tellement bien faire puis que les gens disent du bien d'elle, mais elle va comme mentir pour arriver à ses fins puis tranquillement s'enfoncer dans ses mensonges puis ses problèmes. Puis c'est vraiment le doigt dans l'étau.
Tout en cachant ça à ses enfants.
Oui, exact, parce qu'elle fait tout ça pour ses enfants un peu, mais pour elle-même, pour l'image qu'elle a d'elle-même, que les autres ont d'elle-même et tout. C'est un premier long-métrage pour Gordon. Un film très sensible, très filmé à proximité des personnages et tout. C'est pas un... entouré de nature aussi, je me souviens plus son où exactement en Suisse.
Moi, elle mentionne pas, mais c'est comme un petit village.
C'est ça. Puis entre autres, un de ses buts, c'est qu'elle veut, la personnage, acheter une vieille maison qui est un peu délabrée puis abandonnée. Fait qu'elle essaie de trouver l'argent pour avoir la mise de fonds puis tout, pour quitter son petit appartement puis offrir une belle maison entourée d'un verger à ses enfants. Puis on comprend que le père est plus du tout dans le décor. Puis c'est un problème quand même singulier parce qu'en Suisse, c'est le pays est au quatrième rang du PIB par habitant. Fait que c'est un endroit où il fait bon vivre puis il y a des bonnes richesses.
Oui.
Mais tu vois, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Il y en a pour certains que c'est rough en tabarouette. Puis c'est ça, c'est pas des sans-abri. C'est juste qu'il faut qu'elle galère d'un petit travail à l'autre puis que finalement, elle mente un peu à tout le monde puis qu'elle vole un petit peu des amis, etc. C'est un film qui va pas tout révéler. Il y a comme... faut déduire qu'est-ce qui s'est passé avant, après. C'est pas un gros casse-tête, là. C'est pas un suspense, mais c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas très... C'est pas juste linéaire. Voici, elle est ça, elle a fait ça, tout ça. Son passé, ses affaires, on va déduire un peu à travers ses mensonges et tout. Puis tout le monde est très, très bon. Ophélia Kolb, qui joue le rôle principal, qu'on a vu moins souvent, mais moi, j'avais découvert dans la série télé 10% sur le Call My Agent, dans son nom international. Elle jouait la conjointe du personnage de Camille Cotin. Je me souviens plus de son prénom, par contre, dans la série. Tu l'as vu aussi?
Oui, tout à fait, effectivement. Je rejoins tes propos. Visuellement, je trouve que c'est un très beau film. La direction photo, les images, c'est très beau. La campagne, bon, en tout cas, le petit village rural, ça sort bien.
Très entouré de forêts.
Oui, c'est ça, on rentre dans la nature. Puis, effectivement, les comédiens sont tous très bons. Et surtout, les enfants, ce qui n'est pas toujours le cas dans des films comme ça.
Ouais.
Mais j'ai trouvé que les trois jeunes, on y croit à leur histoire. Puis,
on comprend et on croit à leur chimie entre eux. La plus vieille qui s'occupe des autres, mais qui Des fois, ils doutent de leur mère, mais ils sont, mais non, hein, t'sais, c'est une mère, elle va pas nous abandonner, elle fait ça, elle doit juste s'occuper.
Ouais, l'espèce tout, d'innocence, pis... du regard d'un jeune envers son parent.
Ouais, ouais, puis qu'on prend souci que j'avais déjà évoqué que quand t'es jeune, tes parents, c'est des parents, t'sais, ils sont tellement bons, ils maîtrisent tout, c'est des adultes, des parents, ils sont en contrôle quand ils disent oui, quand ils disent non, ils savent,
t'sais. Ouais.
Puis dans le fond, non, elle improvise en tabarouette, ouais. T'sais. Une scène touchante à m'amener, un petit truc, t'sais, en fait, elle vole beaucoup à l'épicerie, là. Fait qu'à un moment donné, comme barrée de l'épicerie, mais elle essaie d'y aller pareil. Puis là, je sais plus si elle l'achète ou elle vole, un genre de pain aux bananes. Mais là, elle arrive à la maison, elle le déballe, elle le met dans un plat de cuisson maison, elle met un peu de farine sur le comptoir. Puis elle dit, hey, regarde, j'ai fait ça, ouais, super. C'est... Mais tu sais, on comprend, elle aurait pu juste voler ou acheter le pain, puis juste, hey, on a ça à manger, mais elle veut que même pour ses enfants, il y a le côté de genre, hey, c'est toi qui cuisines ça? Ben oui, je lui ai fait ça pendant que vous écoutez la télé, puis tout, tu sais, puis pour dire ça s'en va à ce niveau-là, tu sais, c'est pas un film nécessairement qui est sur les mythomanes, mais tu sais, c'est ça, je dis, c'est toujours bien fondé quand on le fait, mais t'as un petit peu de, ouais, c'est pas le meilleur choix, tu sais. Ça rappelle un peu aussi, pas aussi thriller, mais À plein temps. Avec Laure Calamy, justement, qui, elle, pendant une grève des métros, elle avait 2-3 jobs, puis elle était obligée de dire oui puis non à l'autre pour essayer de, justement, acheter aussi une forme de paix, un logement pour ses enfants, tout, je me souviens plus. Lui était très thriller, là.
Ouais.
Thriller social, là, on est plus dans le drame, là. Mais aussi, un film très bref, je pense qu'il est 1h20.
Oui, oui, c'est ça.
Fait que...
Puis, tu sais, assez léger, là, on est pas, c'est pas un drame lourd. Là.
Non, c'est pas mélodrame et tout.
Une certaine légèreté. Fait que ça s'écoute très bien.
Ouais, pas disponible à beaucoup d'endroits. Mais peut-être qu'il va ouvrir par la suite ailleurs. Les Courageux de Jasmine Gordon. Moi, c'est tout pour cette semaine. Je pense qu'il y avait, je sais pas, il y a peut-être des docus ou autre chose, mais ça, c'est ce qu'on a vu. La semaine prochaine, 18 avril, plusieurs sorties. Les premiers échos de Sinners de Ryan Coogler avec un double rôle de Michael B. Jordan. Mm-hmm. C'est la mode ces temps-ci. Premiers échos excellents.
Ouais, je suis content.
Du film qui renouvelle les vampires avec, oui, un côté de peut-être le traitement avec les Afro-Américains dans l'ère de la. Des années 50 à peu près. Là. Fait qu'un mélange de banjo puis de blues puis de vampires. Fait que très curieux de voir ça. Avec des vieilles. Comment ça s'appelait? Les vieilles mitraillettes avec un baril en avant, là, très mafia.
Ouais,
là.
Ouais, j'ai oublié le nom,
c'est
mais.
J'étais un peu prohibition, ouais, c'est ça, cette époque-là. Le drame judiciaire, le fil de et avec Daniel Auteuil aussi, très intéressant. On en discute la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et suivez, s'il vous plaît, Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et laissez-nous donc 4-5 étoiles là où vous écoutez le balado. Et abonnez-vous pour ne pas manquer d'épisodes. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez trouver l'entretien avec Guillaume Senet et Romain Duris sur une part manquante sur notre site Internet. Et sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et puis, si vous avez peur de recevoir des textos menaçants, prenez-vous donc un BlackBerry.